Sécheresse historique, canicule persistante, le réchauffement climatique marque comme jamais notre été. Et c'est encore plus vrai quand on prend de l'altitude. La montagne chauffe, la montagne fond, la montagne s'effondre. Et c'est tout un paysage qui change à vitesse grand V. Près de 10 degrés relevés au sommet du Mont Blanc, des glaciers en recul permanent, des torrents à sec. Alors ce matin, on a envie sur Inter d'entendre ceux et celles qui sont aux premières loges de ces bouleversements. Avec nous, deux figures et deux générations de l'alpinisme français, Catherine Destivelle et Charles Duboulos. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Catherine Destivelle, vous avez marqué la décennie 90 en multipliant les exploits. Vous restez aujourd'hui la seule femme à avoir vaincu en solitaire le Cervin, la face nord de l'Eiger en hiver, s'il vous plaît, et les Grandes Jorasses dans le massif du Mont Blanc. Les Grandes Jorasses que vous connaissez bien, Charles Duboulos, puisqu'il y a 6 mois à peine, vous y avez vous aussi réalisé une première, l'ascension de la face nord, seule et en hiver. Voilà pour vos pédigrés respectifs. Avec nous aussi, Valérie Masson-Delmotte, bonjour. Valérie Masson-Delmotte, que l'on retrouve pour un regard un peu plus scientifique. Vous êtes paléoclimatologue, membre du GIEC, le groupe d'experts internationaux sur le climat. Catherine Destivelle, on va peut-être commencer avec vous. Très concrètement, en quoi la montagne que vous parcourez aujourd'hui a changé par rapport à celle que vous avez connue à vos débuts? Qu'est-ce qui vous marque d'abord?
Le changement de paysage, c'est plus du tout les mêmes. Il manque beaucoup de glaciers, il manque des grands névés, notamment par exemple la face nord de l'Eiger où aujourd'hui il n'y a plus un seul névé, c'est tout noir. Et donc ce qui change, ça se voit à l'œil nu et on découvre malheureusement aussi la baisse des niveaux des glaces, notamment la mer de glace. Là, ce qui ressemble plus qu'à un pierrier pratiquement. Et ça, c'est assez déprimant, pour être honnête.
Alors, on va vous retrouver, on a quelques...
Je pense qu'on est privilégié pour le constater ici.
On a quelques problèmes de liaison avec vous, on va espérer que ça s'arrange. Charles Duboulos, vous avez commencé l'alpinisme un peu plus récemment, mais déjà, en l'espace de quelques années, vous avez vu, vous aussi, votre terrain de jeu changer?
Alors oui, complètement. On va dire que la montagne, elle évolue de manière exponentielle. En fait, on s'y intéresse beaucoup et on en parle beaucoup aujourd'hui, tout simplement parce que le réchauffement qu'on est en train de vivre ici, on va dire en ville, en bas ou à des altitudes un peu plus raisonnables, et ben en fait là-haut, il est vraiment vraiment accéléré d'année en année. Et cette année, c'est vraiment un record, c'est-à-dire que on s'attendait pas du tout à une telle fonte. Là, vraiment, on pourrait dire que la structure, que la base des glaciers a vraiment été attaqué et en profondeur et dès le début de la saison. Donc oui, c'est sûr qu'il y a des changements qui sont vraiment conséquents, même depuis une petite dizaine d'années.
Pour vous, à titre personnel, à quand remonte la prise de conscience? La prise de conscience que quelque chose était en train de clocher, de changer, le déclic, il remonte à quand, vous qui arpentez la montagne depuis votre enfance?
Alors, moi, je pourrais dire que j'ai tout le temps entendu quand même parler ceux de la génération d'avant du fait qu'il y ait de moins en moins de glace. En fait, c'est vrai depuis quand même un certain nombre d'années, mais vu que c'était, on va dire, des petites fontes tous les ans, ça paraissait acceptable. Après, c'est sûr que si on prend sur une durée de 10 ans, ça fait quand même des fontes conséquentes. Mais ce qu'on a là et ce qui, on pourrait dire, est vraiment nouveau cette année, l'année dernière, sont des fontes qui sont vraiment accéléré, amplifié par rapport à ce qu'on a pu connaître avant. Et en fait, la vraie difficulté qu'on va avoir aujourd'hui, nous les alpinistes, si on parle uniquement de la montagne, c'est plus forcément de grimper les voies, ni leurs difficultés, mais c'est d'y accéder. Ce sont les accès aux voies, notamment à cause des glaciers très crevassés, des chutes de pierres, et voilà. Donc on est confronté à certains problèmes qui nous demandent des adaptations.
Et vous étiez justement, vous, je crois, dans les Écrins, hein, dans les Alpes du Sud, il y a quelques semaines, pour une grande boucle de 13 jours avec une dizaine d'ascensions au programme. On a vu ces derniers jours des photos ahurissantes des glaciers des Écrins, notamment le grand glacier blanc, qui n'est plus que l'ombre de lui-même, si je puis dire, surtout quand on compare avec des photos remontant à quelques décennies. Ça, sur place, vraiment, concrètement, vous le voyez, vous le constatez, c'est-à-dire qu'il y a des chemins, des voies que vous empruntiez qui ne sont plus les mêmes, que vous ne reconnaissez plus?
Ah mais ça c'est sûr que c'est un constat que tous les guides de haute montagne et que tous les alpinistes pourront vous faire, hein, c'est que d'année en année c'est vraiment marquant ce changement. Et puis tout simplement pour aller faire par exemple on parle du glacier blanc qui mène à une voie très classique qui s'appelle le dôme des Écrins, un 4000, un peu initiation pour les gens qu'on veut emmener, et ben tout simplement maintenant Il est en glace. Alors avant, on le faisait en neige, c'était assez agréable. On marchait dans la neige jusqu'à la fin du mois d'août et c'était très bien. Et aujourd'hui, c'est de la glace, donc de la glace bleue. Il faut se rendre compte que pour évoluer sur de la glace, c'est beaucoup plus compliqué que sur de la neige. Donc oui, c'est des changements qui sont marquants. Et même, on va dire, techniquement, l'accès à la montagne est beaucoup plus compliqué. Et c'est vraiment impactant pour les professionnels de la montagne et de la haute montagne aujourd'hui.
Ouais. Et on va y revenir. Hein. La montagne devient plus dangereuse, plus de risques. Les éboulements se multiplient, les glaciers fondent, s'écroulent parfois, comme en juillet dans les Dolomites italiennes. Valérie Masson-Delmotte, est-ce que ça veut dire que le réchauffement climatique est plus visible ou qu'il est plus rapide en montagne qu'ailleurs ? Alors, on a perdu Valérie Masson-Delmotte. On va retrouver peut-être Catherine Destivelle. Je parlais d'une montagne plus dangereuse. Le maire de Saint-Gervais, il y a quelques jours, a décidé la fermeture des refuges qui sont situés sur la voie principale d'accès au Mont-Blanc pour empêcher l'ascension, parce qu'il y a de nombreuses chutes de pierres dans le couloir du Goûter sur cette ascension au Mont-Blanc. Ça, c'est une décision que vous comprenez. Il n'y avait pas le choix.
Enfin, je la comprends. Oui, c'est pas une interdiction totale parce que les professionnels peuvent encore y aller. J'ai un ami geek qui a été l'autre jour avec des clients. Il faisait le jour où il a plu, d'ailleurs, justement, et ça a rajouté de la neige. Il y a des conditions. En fait, les guides sont pendus un petit peu à leur thermomètre pour voir s'il y a un risque d'éboulement ou pas. Bah, par contre, les touristes qui ne connaissent pas bien la montagne risquent eux, d'y aller sans connaître les problèmes. Et du coup, c'est ça qu'il veut empêcher, pour éviter qu'il y ait des vies brisées, en fait. Puis il y a des gens qui viennent de loin, de tous les pays, pour faire le Mont Blanc. Et ceux-là, ils ne connaissent pas du tout le terrain. Et ça, c'est... Du coup, il a... Bon, après, c'est pas fait. Hein. On a le droit d'y aller encore. Hein. Mais il y a des gens en bas qui sont là pour prévenir et dire... voilà. Mais par contre, les refuges sont fermés.
Oui, oui.
Donc ça, il faut prendre ses précautions pour
dissuader l'accès au Mont Blanc. Alors l'alpinisme,
mais tout devient plus difficile.
L'alpinisme évidemment n'a jamais été sans risque, bien sûr. Mais on en parlait avec votre collègue Charles Duboulos. Est-ce que vous vous préparez maintenant à ce que votre activité soit de plus en plus dangereuse avec des paramètres que vous ne maîtrisez plus vraiment?
Alors, elle est plus dangereuse à certaines périodes. Moi, j'ai pas mal d'amis guides qui ne travaillent plus au mois d'août, mais qui ont décalé leur saison en mai-juin, par exemple, pour mai-juin-juillet, pour essayer de bénéficier de bonnes conditions. En fait, l'activité des guides, en tout cas, se déplace pour pouvoir emmener des gens en toute sécurité. En mois d'août, ça fait plusieurs années que c'est très dangereux. Enfin, il y a dans les massifs, genre le massif du Mont-Blanc, ou même dans les écrins, il y a les chutes de pierres, tout ça au mois d'août. Et là, aujourd'hui, on se retrouve aux conditions qu'on a en général fin août. Et là, c'est un peu dramatique. Mais
donc on a un mois d'avance sur les conditions.
Voilà, ce que disait Charles, tout est en glace. Alors qu'en début de saison, le dôme des écrins, c'est en neige. Et si les gens avaient voulu y aller en mois de mai, juin, juillet, c'était possible. Maintenant, c'est vrai que c'est tout sec et tout très difficile. Alors par contre, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y avait des glaciers, enfin des névés qui avaient de la glace depuis 3000 ans. Qui n'existe plus aujourd'hui. Mmh. Là, cette année, il y a plus ce genre de glace noire qu'on trouvait avant. Et là, ça va venir problématique. Je ne sais pas du tout comment ça va évoluer. Notamment, je parle de l'Aigueur ou de la face nord du Tacu ou des parois comme ça.
Alors, Charles Duboulos, on parlait du calendrier des courses qui va peut-être se décaler. Hein. Le maire de Saint-Gervais dit aujourd'hui qu'il faut peut-être renoncer tout simplement au Mont-Blanc en juillet et en août. Comment vous voyez pratiquer l'alpinisme dans 10, 20, 30 ans, c'est un bouleversement des pratiques qui s'annonce.
Alors oui, c'est sûr, hein, si on parle uniquement de l'alpinisme, c'est un bouleversement, mais qui a déjà opéré, on pourrait dire, depuis 2-3 ans, comme disait Catherine. Là, au mois d'août, on va tout simplement plus en montagne. Moi, j'ai également beaucoup de copains guides qui, au mois d'août, refusent de mettre un pied en haute montagne. Et maintenant, cette année, c'était même à partir du mois de juillet. Donc ça fait des saisons de plus en plus courtes. Donc comment on peut parer à ça? C'est s'adapter un peu sur la saisonnalité, c'est-à-dire décaler un petit peu notre saison au mois de mai ou au mois de juin, et voilà. Pour avoir des conditions plus clémentes. Mais c'est sûr que dans 10 ou 20 ans, pour nous, c'est très très compliqué de se projeter, parce que lorsqu'on a une saison comme celle qu'on est en train d'avoir, moi j'ai quand même hâte de voir ce que va être la saison prochaine. J'ai du mal à me dire, mais alors ça voudrait dire que tel itinéraire en mai, il est plus faisable et tout ça. Donc oui, j'imagine que ça sera des vraies adaptations, mais vu qu'on est des grands passionnés de montagne et qu'on aime ça, on essayera, j'imagine, de trouver les meilleures périodes et les meilleures conditions pour continuer d'aller là-haut.
Alors, on a retrouvé Valérie Masson-Delmotte au téléphone, notre invitée climatologue. Je vais vous reposer ma question par rapport à ce qu'on entend, ce qu'on constate en montagne. Est-ce que ça veut dire que le réchauffement climatique est plus visible ou qu'il est plus rapide en montagne par rapport aux autres régions?
Alors, le réchauffement climatique, il s'intensifie partout, et notamment en montagne, du fait de la remontée de l'isotherme 0 degré, là où on trouve 0 degré en altitude, ça affecte le manteau neigeux. Cette année, le fait qu'on ait une sécheresse et des conditions chaudes de manière précoce font qu'il n'y a pas de couche de neige fraîche et que les glaciers prennent de plein fouet l'effet des vagues de chaleur successives. Il y a aussi le dégel des sols gelés, qui est une conséquence directe de nos rejets de gaz à effet de serre. Et dans le monde, le recul des glaciers s'est amplifié en rythme depuis les années 90. Et puis les glaciers ne sont pas à l'équilibre avec le climat d'aujourd'hui. Ils vont continuer de toute manière à s'ajuster. Donc ça fait partie des caractéristiques, on va dire, irréversibles de ce climat qui se réchauffe, le recul des glaciers.
Alors le recul des glaciers qui est très marquant, ça veut dire qu'il faut, entre guillemets, si je parle un peu trivialement, faire une croix sur les glaciers d'ici à la fin du siècle?
Alors on peut agir pour limiter le niveau de réchauffement planétaire en réduisant massivement les rejets de gaz à effet de serre dans le monde. Et il y a une étude européenne qui donne un ordre de grandeur. Quand on met dans l'atmosphère 1 kg de CO2, on va perdre en fait à terme environ 15 kg de glace de glacier qui va fondre.
Donc il n'est pas tout à fait trop tard encore pour sauver les glaciers des Alpes, des Pyrénées? On peut encore en sauver une partie?
Alors les petits glaciers se rétrécir, on risque de les perdre. Par contre, les glaciers de plus haute altitude vont persister. Néanmoins, leurs caractéristiques vont se transformer du fait de la présence croissante d'eau fondue. Et ce recul du manteau neigeux des glaciers, bien sûr, ça affecte les activités sportives, les activités de loisirs en montagne, mais ça affecte aussi l'approvisionnement en eau en plaine, parce qu'on perd l'effet de stock de l'eau accumulée en hiver, qui n'est plus disponible dans les cours d'eau en été, lorsqu'on a perdu l'enneigement et les petits glaciers.
Catherine Destivelle, vous l'imaginez une montagne sans glaciers?
Pour le moment, je ne l'imagine pas trop. Ceci dit, là, on n'imaginait pas la face nord de l'Eiger sans ces plaques de glace et de neige. Maintenant, on va s'adapter. Voilà, ça va être triste. Ça va être vraiment triste. Mais bon, là, je vois de chez moi, je vois très bien le Mont Blanc. Et voilà, il y a encore une grosse épaisseur de glace. Mais c'est vrai que ça fait peur. On va se dire en septembre comment ça va être si ça continue à faire chaud comme ça. C'est dramatique, mais bon, il faut rester optimiste.
Le Mont Blanc est toujours là. On va aller au standard prendre un appel de Thomas. Thomas, vous nous appelez de Lyon. Quelle est votre question?
Oui, bonjour à tous. En fait, ma question, c'était comment utiliser le recul des glaciers ou les événements climatiques divers et la souffrance qu'elles génèrent, que ça soit la peur de voir sa maison brûler ou le sentiment de tristesse par rapport à ces disparitions de glaciers ou d'espèces, etc., pour sensibiliser sans démobiliser, parce qu'on sait que ça va se reproduire de plus en plus dans le futur et que on voit les gens qui sont complètement stupéfaits par rapport à ces choses-là qui ont été pourtant prévu par le GIEC.
Mais là, c'est vrai que ce sont des images qui marquent. Charles Duboulos, vous êtes aussi guide de haute montagne. Est-ce que vous cherchez à sensibiliser vos clients? Comment vous le faites? Simplement en observant ce qu'il y a autour de vous?
Alors ça, c'est effectivement une très bonne chose. Nous ne sommes, moi je ne suis qu'un guide de haute montagne, qu'un alpiniste, et je suis pas scientifique. Je suis simplement un témoin, on va dire, aux premières loges de ce qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer là-haut, bah voilà, comme on a fait que de le dire, c'est vraiment très très fort par rapport à ce qu'on a pu connaître les autres années. Donc nous, en tant que guide de haute montagne ou en tant que professionnel de la montagne, on a un vrai rôle, c'est de sensibiliser et nos clients et notre entourage à ce qu'on voit là-haut, tout simplement parce qu'il y a des gens qui n'y montent pas ou qui sont pas confrontés à ce milieu. Donc oui, alors éduquer, ça serait un bien grand mot, mais ça serait être tout simplement des témoins ou donner de manière factuelle, ben voilà,
les lanceurs d'alerte. C'était
voilà, ben lanceur d'alerte, le mot est peut-être fort, mais c'est au moins de dire, ben voilà ce que j'ai vu l'an passé, voilà ce que je vois là, et voilà ce à quoi je suis contraint aujourd'hui dans mon activité d'alpiniste et de guide de haute montagne, pour pouvoir continuer d'aller là-haut, ou même sans dire de continuer d'aller là-haut, peut-être qu'un jour, voilà, comme comme sur la voie normale du Mont Blanc, il y a des fois où c'est plus raisonnable, eh bien tout simplement de fermer les structures pour accueillir les gens et pour qu'il y ait moins de gens qui aillent là-haut, parce qu'en fait, voilà, il y a un moment on va.
Alors justement, je crois qu'on a une question sur ce sujet, sur la régulation de l'accès aux standards. On accueille Lucio. Bonjour. Lucio, au standard. Alors je vais. Oui, vous êtes là.
Oui.
Allez-y, posez votre question.
Bien. Les propos de Catherine Stivel m'ont surpris parce que d'une part, les questions, elle fait un état désolant de ce qui se passe en haut des cibles. Et d'autre part, elle dit qu'il faut créer les conditions pour emmener les gens en toute sécurité.
Vous trouvez ça un peu contradictoire?
C'est contradictoire et j'estime que les cimes, c'est... Si vraiment on veut sauver ce qui est sauvable, le mot n'est pas correct, il faut créer des sanctuaires et ne plus aller là-haut. Il faut s'arrêter à une certaine hauteur et essayer de reconstituer ce qui pourrait éventuellement être reconstitué.
Catherine Destivel va vous répondre. C'est vrai que, naturellement, la montagne, c'est un espace de liberté. Est-ce qu'il faut davantage ou non le réguler ?
Moi, je crois pas. C'est pas un homme ou quelques hommes qui vont changer la condition de la montagne. La montagne est quand même beaucoup plus forte que nous. Par contre, ce qu'il faut éviter, c'est qu'il y ait des gens qui se tuent. Et quand tu dis que il faut faire attention et de les emmener en toute sécurité, il faut attendre que les conditions soient bonnes. Après, c'est désolant de voir un paysage qui se noircit, et que les névés disparaissent. Mais c'est tout ce que je peux dire. Et, supprimer l'activité de l'alpinisme, je trouve ça un peu dommage. Et puis je vois pas pourquoi. C'est pas les peu d'alpinistes qu'il y a. Alors sur la voie normale du Mont Blanc, ok, il y a du monde, mais tout a été fait pour préserver cette montagne et éviter d'y laisser des traces. Et on se fait partout dans le monde pareil. Hein. Donc du coup, non, je pense que c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est d'alerter les politiques et les gens qui ont le pouvoir de décision par rapport au fait que, enfin, de réduire les gaz à les gaz à émission à effet de serre, pardon, ouais. Et du coup, il faut c'est là qu'il faut agir. Et la montagne est un beau témoin de ce qui se passe et peut alerter. Il faudrait que tous les grands politiques viennent ici et les économistes viennent ici pour voir ce qui se passe. Mais ça s'arrête. Nous, les petits alpinistes, on n'a aucune action sur la détérioration du terrain.
Charles Duboulos, vous êtes d'accord avec ça? On n'a pas trop profité, trop abusé de la montagne. On parlait des files indiennes, si je puis dire, sur la voie principale d'accès au Mont Blanc. On en a vu aussi sur certaines montagnes de l'Himalaya.
Mais c'est sûr que si le problème du réchauffement climatique et de la fonte des glaciers venait des alpinistes, j'imagine que ce serait assez facilement réglé. Il suffirait effectivement de nous empêcher d'aller là-haut. En revanche, je pense que le problème il est beaucoup plus important que ça et multifactoriel. Donc il n'y a pas que les alpinistes. En revanche, ce qui est sûr, c'est que, comme le disait Catherine, ce qui est important, c'est de laisser le moins de traces possible. Alors on s'offusque parce qu'on voit souvent des camps de base, par exemple en Himalaya, où il y a des centaines de kilos de déchets et tout ça. Alors ça, c'est sûr que c'est absolument déplorable et nous, on ne cautionne pas du tout ça. En revanche, c'est très compliqué, on va dire, d'empêcher aux alpinistes de pas aller au sommet. Ce qu'on peut faire, c'est mettre en place des régulations comme elles peuvent être mises sur certains sommets. Ça paraît être quelque chose de bien. Mais ça, une fois de plus, c'est pour les sommets qui sont très convoités, dont on parle beaucoup. Mais en fait, l'alpinisme ne se réduit pas qu'au Mont Blanc. Et en fait, il y a aussi beaucoup d'autres ascensions, beaucoup d'autres activités ailleurs qui sont faites de manière raisonnable et raisonnée. Et voilà. Donc, c'est sûr que pour ces voies qui sont très convoitées et célèbres, il faut, par période, c'est pas mal d'avoir une régulation.
Plus globalement, votre terrain de jeu, la montagne, c'est aussi une destination touristique majeure, pas seulement une destination d'alpinistes. En été et en hiver, bien sûr. Les stations de ski, d'ailleurs, aussi sont menacées par le réchauffement. Est-ce qu'il faut repenser plus globalement, selon vous, cette activité touristique, la place de l'homme dans les massifs ?
Ah bah c'est, dans tous les cas, c'est sûr. Alors, il faut la repenser. On est en 2022, j'imagine que si on avait été très très bon, on y aurait pensé il y a 25, 30 ans, voire une génération avant, en disant ce qu'on est en train de faire, ça va pas être éternel. Mais en fait, la page, elle se tourne à une échelle d'une cinquantaine d'années, donc c'est très rapide. Y repenser maintenant, on y repense parce qu'on y est confronté. Il y a combien de stations de moyenne altitude qui aujourd'hui n'ont pas suffisamment de neige l'hiver pour ouvrir leur remontée mécanique et tout ça. Alors qu'est-ce qu'on fait de ces installations? Comment on fait ça? On va dire le débat du ski et des stations de ski, il est repensé en ce moment actuellement, et dans les 10-15 prochaines années, alors ça c'est sûr qu'il va être qui va considérablement changer parce qu'on y est confronté, on n'a pas le choix, la neige elle tombe pas du ciel, il fait plus chaud et on est contraint, donc on réfléchit différemment.
Là-dessus, Valérie Masson-Delmotte, est-ce qu'il faut repenser l'équipement de la montagne puisqu'elle se fragilise, puisque par endroits elle s'effondre? Je pense aux refuges, aux remontées mécaniques, aux téléphériques de haute altitude, l'aiguille du Midi dans le Mont Blanc, le pic du Midi dans les Pyrénées. Est-ce que tout cela est menacé à plus ou moins long terme finalement?
Alors en fait, pour revenir sur l'ensemble des questions que vous avez prises, ce qui est vraiment notable dans l'évaluation des récents rapports du GIEC pour les régions de haute montagne, c'est que la plupart des actions d'adaptation, elles sont souvent réactives suite à une situation de crise, mais elles n'ont pas l'ampleur ou la portée nécessaire pour se préparer aux risques à venir. Alors un aspect particulièrement notable, c'est la compétition croissante pour l'utilisation de l'eau en montagne, pour l'agriculture, l'électricité, le tourisme, avec des enjeux majeurs de transformation de la gestion de l'eau. Vous avez aussi mentionné les changements qui affectent les modes de vie, les valeurs culturelles, la mémoire, la culture, le sentiment de perte, c'est là par rapport à des paysages dont on voit sur une vie qui se transforme. Il y a des enjeux considérables aussi par rapport à la protection des espèces. On n'en a pas encore parlé, mais en montagne, les espèces endémiques, leurs habitats se réduisent à mesure du réchauffement, ne devient restreint qu'aux altitudes les plus élevées. Donc il y a vraiment cet enjeu aussi à agir pour la protection de la biodiversité, mais aussi plus largement l'ensemble des activités récréatives et de tourisme. Vous l'avez bien souligné.
On va prendre une dernière question au standard. Camille nous attend à Brest. Bonjour Camille.
Bonjour, merci de prendre ma question. Ouais, je vous appelle de Prades, dans les Pyrénées-Orientales.
Pas du tout la Bretagne, alors.
Je viens du Finistère Nord, mais en effet, je suis à Prades actuellement, donc pas très loin des montagnes également. Je voulais questionner tous ces passionnés de montagne, parce que moi, j'aime beaucoup la nature, entre autres, et c'est vrai que depuis plusieurs années, ils ont construit leur activité professionnelle autour du tourisme et leur activité de guide. Et comme on le disait, vous le disiez en début d'interview, en fait, il y a des gens qui viennent des quatre coins du monde pour gravir le Mont Blanc. Et du coup, on est quand même là dans une démarche, au final, qui crée du déplacement, qui crée de la fréquentation. Et on sait bien qu'aujourd'hui, les gens se déplacent en avion. Donc, quelle approche ils ont ces passionnés de la montagne pour cette démarche un petit peu contradictoire entre respect d'un paradis naturel et en même temps faire venir les gens massivement en avion pour gravir des glaciers qui fondent et qui deviennent des pierriers, comme ils disent.
Alors, deux réponses rapides de nos deux alpinistes. Catherine Destivelle, que répondez-vous là-dessus? Est-ce qu'il faut se limiter dans les déplacements aussi, ne plus aller, par exemple, faire des courses dans l'Himalaya quand on est dans les Alpes?
Ah bah c'est une chose à laquelle on pense effectivement. Moi, égoïstement, je dirais j'ai déjà fait pas mal de choses et j'éprouve moins le besoin de bouger, mais ça c'est très égoïste. Donc les gens viennent ici pour le Mont Blanc de quatre coins du monde, mais on peut pas les empêcher de venir. Comme il y a des gens qui c'est vrai que c'est complètement contradictoire et nous alpinistes on a essayé de réfléchir à ce point. Pour le moment la solution, il n'y a pas vraiment solution. Revenir à des transports comme on le faisait à l'époque par bateau, les premiers alpinistes.
C'est un dilemme ça, Charles Duboulos, c'est un dilemme que vous avez à titre personnel?
Alors complètement. En fait, les guides, on s'est posé la question de comment on pourrait réduire notre impact, parce qu'effectivement, on est quand même sur une consommation de la montagne, et ça, on peut pas le dire différemment. La question de Camille était très juste. Ce qu'on s'était dit, c'est il y a même des guides qui ont pris la mesure de dire moi, je ne me déplace plus, je vais plus, j'emmène plus mes clients faire du ski en Norvège, je ne vais plus, voilà. J'accepte de ne plus me déplacer, je travaille dans un rayon, on va dire, de 30 ou 40 kilomètres autour de chez moi. Mais la réflexion qu'on s'est faite, c'est effectivement, nos clients, ils viennent au mieux de l'autre bout de la France, au pire, entre guillemets, de l'autre bout du monde. Donc forcément, eux, ils ont des déplacements. Est-ce que nous, on accepte d'emmener ces gens-là ou pas? Après, il y a des guides qui, j'imagine, ont une vraie ligne de conduite et sont puristes et disent, moi, les gens que j'emmène, ils habitent autour, sont des locaux, on fait des sommets, on va dire, de manière locale, et voilà. Sauf que, bah, évidemment, le guide qui fonctionne comme ça, il se coupe une grosse part.
Bien sûr.
Bah voilà, de revenus et quand
c'est
même,
un
dans
équilibre
l'été,
à trouver. On va devoir s'arrêter là. Merci
très
beaucoup,
bien.
Charles Duboulos, Catherine Destivelle, Valérie Masson-Delmotte. Merci aussi à France Bleu Béarn pour la réalisation du duplex depuis Pau pour Charles Duboulos. Bonne journée à tous les trois. France Inter.